Salut les amis, 17h55, passé bientôt 18h, on est ravis d'être avec vous. On est à Roanne au congrès Ville de France, ville où il fait bon vivre. On est ravis d'être avec vous. Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir puisque j'ai eu l'occasion de le recevoir et il m'a reçu, bien évidemment, dans sa bonne vieille ville de Vichy. C'est le maire de Vichy qui est avec nous. C'est Frédéric Aguilera. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous revoir.
Ravi aussi.
Parce que, d'abord, je vais vous le dire, sur la campagne des clés de la ville que nous faisons avec... en partenariat avec nos amis du Figaro, la ville de Vichy a bâti de records d'audience, puisque juste le petit reportage qui met en relief votre jolie ville a dépassé les 75 000 vues en quasiment une journée, donc c'est jamais arrivé. Donc je voulais vous le dire parce que c'est juste magnifique. On a vu à Vichy une chose extrêmement intéressante, qui est une alliance à la fois de la culture, de la tradition, du patrimoine magnifique, mais véritablement et résolument tournée vers l'avenir, vers la modernité, avec des idées intelligentes. Et je voulais aussi vous féliciter, mon cher Frédéric, puisque vous avez été réélu en 2026 pour 6 années de plus. Donc vous allez voir la portée de vos projets sur la durée. Je trouve ça rassurant. Est-ce que, ce sera ma première question un peu générale, mais quand on est maire et réélu, est-ce qu'on n'a pas l'impression de se dire « là, je suis vraiment maire, puisque je vais voir finalement les projets que j'ai mis en œuvre il y a quelques années qui vont naître et je serai encore là pour les voir ?»
Alors oui, c'est peut-être il y a une partie sur les projets déjà lancés, mais comme on a fait aussi une campagne en s'engageant sur de nouveaux projets et de nouvelles ambitions, évidemment très vite, et puis c'est un peu mon fonctionnement intellectuel, c'est très vite, moi je suis surtout focus sur les futurs projets. Donc je me dis, au-delà de pouvoir bénéficier et récolter entre guillemets les bénéfices des anciens projets, je suis surtout à me dire il faut maintenant tout ce que l'on a annoncé le réussir dans le prochain mandat. Donc je suis déjà très mobilisé sur ces futurs projets.
Alors, au-delà du plébiscite de vos administrés sur la confiance qu'ils vous ont renouvelée, bien évidemment, il y a des projets qui sont sortis. J'aimerais qu'on reparle du projet de Vichy-Lac, si vous voulez bien. Énorme comme projet.
Ah oui, à la taille de la ville, c'est énorme, puisque à terme, ce sera entre 500 et 600 logements. C'est 16 hectares, c'est le dernier secteur où on peut urbaniser la ville, donc c'est le dernier grand quartier à construire. Et il nous faut en plus être à la hauteur des autres quartiers, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça pose une certaine exigence sur la manière dont on voudra construire ce quartier. Quelle identité ? Moi, je dis toujours, je ne veux pas, et je dis à tous les promoteurs et autres, et aux architectes, je ne veux surtout pas que ce soit un quartier que l'on retrouve dans n'importe quelle autre ville. Alors, certainement, tous les maires disent ça, mais je veux un quartier qui ressemble, qui soit à la fois, comme vous le disiez en introduction, dans la modernité, et à la fois qui respecte les traditions.
Bien sûr.
Et c'est quoi les traditions, entre autres, dans une bonne partie de notre urbanisme ? C'est une tradition, on va dire, d'architecture de villégiature. Le propre de Vichy, c'était une ville thermale, c'est de l'architecture dite de villégiature, où on venait passer des vacances, on appellerait aussi ça, et partiellement c'est vrai d'ailleurs, autour de notre lac, et c'est ce qu'on va faire, de l'architecture balnéaire, donc on est entre l'architecture villégiature et balnéaire, au plein milieu du massif central.
Absolument.
Et il faut que dans cette ville, que vous soyez là pour une cure, pour des vacances, pour venir faire une compétition sportive, ou que vous soyez là pour y habiter, il faut se sentir comme en vacances. Donc je ne veux pas de l'urbanisme qui donne le sentiment qu'on est dans une ville résidentielle, mais qu'on est dans une ville de vacances. Et même quand on y habite, on doit se sentir en vacances toute l'année. Et ça, l'urbanisme et la manière dont on dessine l'architecture de nos bâtiments, c'est fondamental. Donc ce nouveau quartier doit être, et le défi, c'est de dire c'est quoi l'architecture de villégiature et l'architecture balnéaire en 2026 ? Donc il faut qu'on écrive cette signature.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, quand je vois ce projet, je me dis, vous avez planté de la ville comme un éleveur ou comme un maraîcher. Elle pousse et elle s'intègre au paysage. C'est un morceau de ville que vous avez intégré tout en préservant. C'est vrai qu'il y a cette puissance architecturale et un passé qui n'est pas un passé facile à porter non plus, soyons clairs, mais qui est une ville magnifique. Quand on voit aujourd'hui des villes comme la vôtre, avec le positionnement que vous avez pris, est-ce que vous vous dites, Frédéric Aguilera, que quelque part, à l'instar de ce qui se passe au niveau du climat, qu'est-ce que l'on voit avec le climat ? On voit que les villes minérales, aujourd'hui, doivent réfléchir à un verdissement. C'est presque une question de santé publique. De réinscrire l'eau comme circulation, finalement, dans la ville. Alors vous n'avez pas de ce point de vue-là, vous êtes tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette minéralité dans le patrimoine architectural de Vichy. Comment vous faites, vous, Frédéric Aguilera, pour garder cette proximité balnéaire, thermale, qui est très vivace, tout en préservant effectivement le fait qu'il va falloir nécessairement demain, vous, à Vichy, que vous viviez également avec des variations de température aussi fortes?
Alors oui, c'est un enjeu majeur hein, sur l'adaptation du bâtiment.
C'est la clim, déjà, c'est la rénovation, c'est la ventilation.
Il voilà. Y a deux choses dans votre réflexion, votre analyse. Il y a le bâti, j'y reviendrai, et il y a l'urbanisme. Sur l'urbanisme, en fait, ceux qui ont créé les villes thermales et ce qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire notre plan urbanistique en plus de notre architecture, c'était une ville où on devait pouvoir vivre à pied, une ville où après les cures, il fallait des parcs pour faire de l'activité physique, marcher, parce que ça fait partie du soin. Une ville où ce que l'on appelle les paysages devaient intégrer le soin, c'est ce qu'on appelle des paysages thérapeutiques, c'est-à-dire des paysages qui apaisent. Et une ville où la culture devait être placée, c'est-à-dire que nous, au cœur de notre ville, c'est pas ni l'église, ni le château fort, ni quoi que ce soit, au cœur de notre ville, tout tourne autour de notre opéra et de la culture et de tout ce qui est activité cognitive, etc., etc. Donc en fait, et c'était déjà la ville du quart d'heure, puisqu'on devait pouvoir faire tout à pied. Résultat aujourd'hui d'ailleurs, naturellement, plus de 40% des Vichysois vivent à pied, parce que l'urbanisme est très dense. Si vous rajoutez à ça les 5 à 10% qui sont en vélo, plus de la moitié des Vichysois intramuros sont déjà dans le mode doux. Et quand on regarde par rapport à toutes nos attentes, puisqu'on a une ville qui est quasiment ceinturée par des parcs, une ville où la place principale que l'on vient de restaurer en fait est un parc de 6 hectares au cœur du plateau piétonnier, 6 hectares en plein cœur, végétalisé avec des arbres qui sont centenaires, près de 600 arbres, etc. Donc en fait, tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une ville moderne, il y a 150 ans, dans les villes thermales, c'était le schéma urbanistique qui est attendu aujourd'hui. Donc c'est une chance énorme. Donc maintenant, il ne faut pas détruire ce schéma urbanistique, il faut, comme vous le disiez, prolonger la ville, prolonger par ce futur quartier, entre autres Vichy-Lac, prolonger effectivement cette déjà modernité de l'époque, avec de la végétation très présente, au bord de l'eau. On a créé un barrage dans les années 1963, donc on peut se dire c'est récent. Et pourquoi ils ont fait un barrage? Parce qu'il fallait que l'eau soit très présente, mais il y en avait déjà un plus modeste. Dès la 1890, 1900, parce qu'il fallait déjà aussi pouvoir bénéficier de l'eau, avoir des commodités autour de la rivière, etc. Donc la présence de l'eau, la présence de l'arbre, etc., c'est dans notre ADN historiquement la présence du paysage thérapeutique. Donc maintenant, après, il y a le problème du bâti. Alors, évidemment, quand on est une ville patrimoniale, plus de la moitié de notre bâti date d'années avant les années 50, oui. La moitié des habitations. Donc il faut partir sur de la restauration, de la rénovation, de surcroît UNESCO. Donc évidemment, on ne peut pas aller détruire les façades.
Et on ne fait pas travailler sur l'extérieur pour des raisons aussi.
Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre. Et c'est là où globalement, oui, ce n'est pas simple. Mais il faut aussi qu'on trouve les techniques et il faut que demain, nos ABF, nos DRAC qui font un excellent travail, surtout dans des villes comme Vichy, on a besoin aussi de cette rigueur des architectes du patrimoine. Pour autant, il faut que tout le monde intègre dans le logiciel que respecter le patrimoine, c'est aussi intégrer les problématiques parce que notre bâti, si on ne peut plus l'habiter, le vivre, il va de toute façon se détériorer. Donc il vaut mieux de toute façon faire quelques concessions, imaginez comment on intègre les clims dans toiture.
Est-ce que vous y êtes favorable?
Bien sûr, mais on n'a pas
merci
le choix.
Merci de le dire. Frédéric, merci de le dire.
Ouais, merci. Il n'y a juste pas le choix.
Merci de le dire.
Après, par contre, effectivement, je pense qu'il faut le faire intelligemment. Donc après, il y a les villes qui s'y... Enfin, les villes ou les ABF ou même des fois les services des villes qui s'y opposent bêtement et méchamment. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, les gens le font sans demander l'autorisation.
C'est très clair.
Donc il vaut mieux...
Parce qu'ils pensent à leur santé.
Mais bien sûr, et c'est normal. Moi, je ferais la même chose. Donc il vaut mieux accompagner, mettre des règles un peu rigides, accompagner, mais surtout pas interdire. Et là, les gens se prêtent au jeu. plutôt que d'interdire, où en fait ils contournent et puis on trouve des trucs et des situations où on a des, effectivement, au milieu de façades magnifiques ou sur des balcons exceptionnels, des blocs clim mal intégrés, catastrophiques, parce que au-delà de l'intégration, c'est aussi le problème de, des troubles de voisinage, parce que
le bruit, donc il vaut mieux l'installation des caissons.
Exactement, il vaut mieux accompagner le mouvement intelligemment
que
plutôt
d'être
en opposition. J'y crois pas du tout à l'opposition.
Alors là, je vous reconnais bien. Je vous reconnais bien dans la façon pragmatique de joindre finalement. Parfois, ça, en même temps, vous avez des oppositions qui sont parfois intéressantes, et en même temps, finalement, la vitalité démocratique, c'est le débat. Hein. On peut ne pas être d'accord, mais quand même, il y a un vrai sujet de santé publique avec le volume de la mortalité lié à ce qu'on appelle maintenant les bouilloires thermiques. Juste la semaine dernière, on a relevé à peu près. Alors, les chiffres ne sont pas exacts. Alors, bien évidemment, les chiffres avancés au Parlement. Et Sébastien Lecornu s'en est ému et il a eu raison, puisque certains députés ont dit qu'on était sur quelques milliers de morts, ce qui est faux, mais la mortalité a cru de manière significative. On voit bien que ce patrimoine qui a touché les Parisiens, par exemple, si je prends les Parisiens, c'est souvent un patrimoine haussmannien où il y a des grandes difficultés, notamment de restructuration, de ventilation interne ou de climatisation. Et je prends un autre exemple, qui est celui, vous savez, des toits en zinc ou en ardoise, très typique de l'architecture qu'on voyait au 19e siècle, dont d'ailleurs, à Vichy, il y en a beaucoup. Bon, avec des couleurs, vous savez, des couleurs ardoises sombres, alors que, et donc elles emmagasinent la chaleur. Je suis peut-être un peu...
Bien sûr.
Je ne vais pas entrer dans la technique, mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour préserver ça lorsqu'on est maire de votre ville, parce que préserver ses toits, c'est magnifique, c'est des couvertures qui sont dignes d'un classement, bien évidemment, mais alors quand on vit dessous, je peux vous dire que c'est juste invivable.
Il faut trouver le juste équilibre. Moi, je suis persuadé que si vraiment il y a une bonne volonté de part et d'autre, etc., qu'on arrivera à construire.
Ça marche à Vichy ?
Alors,
objectivement.
On n'a pas subi pour l'instant de développement massif de la clim. Donc, évidemment, je n'ai pas suffisamment d'exemples.
Je comprends.
Mais là, on voit bien que tout ça va s'amplifier. Donc, il faut l'accompagner intelligemment. Et moi, je suis persuadé que ça peut se faire. Il y a aussi le principe des cours intérieurs, des façades qui ne sont pas les façades de rue où on peut aussi intégrer des choses. Donc je ne dis pas que ce sera simple, mais en tout cas je dis qu'on ne peut pas l'interdire. D'accord. Et on ne peut pas dire aux gens
les
que
administrés...
vous ne pouvez pas. Vous savez ce qui me choque le plus ?
Dites-moi.
Ce n'est pas tellement que l'habitat ancien ne soit pas adapté. Ce qui me choque le plus, c'est de voir que des immeubles assez récents, avec des normes assez récentes...
Vous avez raison, oui, absolument.
Ces immeubles-là ne soient... Parce que là on peut se dire, bon, ok, non, évidemment,
parfois,
dans les
pire...
années 30,
absolument.
Dans les années 40, ils n'avaient pas pu anticiper.
Oui.
Mais de se dire qu'on a sur des bâtiments récents, bouilloires thermiques, ou en tout cas...
Et je vais vous dire, pire, là, ça me pire parce que comme ça a été surisolé, ça a contenu la chaleur comme vous n'avez pas idée. C'est, merci de le dire également. L'urbanisme est un enjeu majeur. On est à l'aube d'une élection majeure dans le pays. Alors, bien sûr, le président de la République a réussi cet exercice incroyable de congédier et la droite et la gauche et de laisser un vide absolu donc, entre deux radicalités. Mais donc, quand on est maire, aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre de difficultés. Les dotations, les compensations qui sont liées à ce qu'on vous a ôté. J'entends la taxe d'habitation. Je précise également que, enfin, le gouvernement s'est résolu à baisser le montant de la RLS, du réduction de loyer de solidarité, pour la baisse des APL. Quand on est à l'aube d'une élection aussi majeure, et vous le sentez, on sent bien que le pays bouge, hein, il y a une tension. Et que, est-ce que le mépris affiché par le président de la République pendant son premier mandat à l'égard des maires, sur lequel c'était vraiment pas simple, avec une baisse des dotations, un discours très alambiqué, parfois contradictoire. Est-ce que vous avez l'impression que la position que vous occupez, en tant qu'élu de la nation, élu de la République, un élu local, vous êtes le miroir physique de la République lorsque les administrés vous croisent, Frédéric, comme tous les autres maires. Mais c'est vrai, c'est ce que disait d'ailleurs Gérard Larcher quand il dit qu'on est à portée de claque, c'est parce que je vois la République à travers vous, vous l'incarnez. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un rôle à jouer pour cette élection qui est certainement la plus tendue depuis la naissance de la Ve République ? Alors, je suis peut-être un peu pessimiste, mais voilà, la question est posée.
Alors, est-ce qu'on le ressent et on ressent l'inquiétude des habitants ? Oui, c'est une réalité. Est-ce que...
Oui, à Vichy.
Oui, partout. Enfin, Vichy,
non,
parce que
Vichy.
Je suis directement concerné,
oui.
Bien sûr.
Non, mais je
crois que
oui, à Vichy,
bien sûr.
Avec la particularité.
Bien sûr. Est-ce qu'on a eu le sentiment d'être maltraité sur le premier quinquennat de Macron avec... je ne sais pas si c'était un mépris volontaire ou involontaire, mais en tout cas avec une forme de condescendance par rapport aux élus, par rapport à une forme, j'aime pas trop ce terme parce que ça renvoie à un vocabulaire un peu populiste, mais avec une forme de dire, ben voilà, nous à Paris, les élites, on comprend ce qu'il faut faire, donc on voit sur le logement, et on va vous dire, enfin, quand on voit la crise du logement aujourd'hui, quand on regarde effectivement dans les trois premières années du quinquennat de Macron, on avait annoncé un certain nombre de choses sur le logement social, ils ont cassé la machine, il a fallu...
Ils ont cassé la machine, absolument.
Donc, une fois qu'elle est cassée, ben, ok, la nature ayant horreur du vide, ça se reconstruit, mais ça se reconstruit pas comme ça, et si simplement, et retrouver des équilibres, donc évidemment, les choses n'étaient pas si simples que ça. Et pourtant, on veut dire, c'était une évidence, et s'ils avaient un minimum écouté, ils n'auraient pas fait ces erreurs-là, et in fine, ça aurait coûté moins cher, parce que c'était soi-disant pour faire des économies, entre autres sur le logement social. Résultat, je pense que tout ça va coûter beaucoup plus cher sur le temps long. Pour autant, toujours pareil, hein, les réponses qui sont apportées aujourd'hui par les partis populistes, etc., quand j'écoute la manière archi déconnectée de l'extrême droite par rapport aux problématiques des territoires...
C'est faux, hein ?
Ils comprennent même pas le fonctionnement de nos collectivités.
Ça fait même peur.
Mais ça fait peur. Donc, j'allais dire, on risque effectivement sur de passer une vision technocratique, parce que je crois que le problème thématique
on parle d'un parti qui pèse pratiquement 11 millions d'électeurs.
À des extrêmes qui, eux, ont une vision archi déconnectée de la difficulté, archi déconnectée des difficultés réelles et des réalités sur les territoires. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, les gens ne le perçoivent pas. Donc notre rôle aujourd'hui, et moi, mon rôle de maire, et puis j'allais dire particulièrement, hein, puisqu'on nous renvoie souvent... 4 années de nos 2000 ans d'histoire, mon rôle de maire de Vichy, c'est aussi de rappeler, puisque comme on veut nous assigner aussi à cette époque-là, c'est de rappeler que nos institutions, elles sont extrêmement fragiles. De rappeler que la République, elle a été enterrée le 10 juillet 1940 en un seul vote et simplement 80 parlementaires se sont opposés au fait qu'on enterre la République pour passer à l'État français. Avec une volonté très clairement d'enterrer la République et pas simplement un pur élément sémantique. De dire que donner effectivement les clés à des partis populistes, que ce soit d'extrême gauche, que ce soit d'extrême droite, c'est un risque effectivement de donner les clés du camion à des gens qui font n'importe quoi sur le plan institutionnel. En fait, je crois que les Français, parce que ça fait maintenant 80 ans qu'on vit dans un système maintenant en paix, durable, avec une constitution de la Ve République qui est installée, ils ont l'impression qu'en fait on peut s'amuser un peu et voter comme à la Star Academy et que peut mettre n'importe qui, c'est pas bien grave, ça changera rien, nos libertés seront pas atteintes, les institutions vont tenir, parce que voilà, on a l'impression que c'est une vieille dame, notre 5e République, et que rien ne peut l'atteindre. La réalité, l'histoire nous montre tout l'inverse. L'histoire aux États-Unis avec Trump montre que vous avez beau avoir des démocraties très installées, il suffit qu'il y ait un zozo à la tête du pays.
Un fou furieux,
il peut faire n'importe quoi. Donc les institutions, contrairement à ce que l'on pense, ne nous protège pas tant que ça. Donc c'est extrêmement fragile. Et oui, à Vichy, on le sait mieux qu'ailleurs, parce qu'à Vichy, on a vu en un seul vote, en une journée, la République enterrée.
S'effondrer, absolument.
Donc cette fragilité de nos institutions, il faut qu'on la rappelle matin, midi et soir. Et dire, attendez, c'est pas parce que la 5e est une vieille dame qu'elle va vous protéger de tout et des pires délires.
Ce que vous dites est fondamental, je rappelle juste à toutes celles et ceux qui nous écoutent, que lorsque le gouvernement, qui était le gouvernement de Paul Reynaud, me semble-t-il, s'est trouvé avec les problèmes qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, parce que là on parle d'une période incroyable, c'est l'octroi des pleins pouvoirs, en fait, qui a été donné au maréchal Pétain.
Plein pouvoir constituant.
Alors, plein pouvoir constituant, et qui a donc congédié la République, ça s'est fait effectivement. Et ces 80 parlementaires, d'ailleurs, se sont ensuite partis, et on connaît tous l'histoire du fameux Massilia, dans lequel. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, même si je ne fais pas de comparaison, je rappelle qu'en 1934, la veille de 1934, il y a eu un événement grave en Allemagne, qui est l'incendie du Reichstag, qui a provoqué la convocation des deux parlements à l'époque de ce qui subsistait de la République de Weimar pour octroyer à Adolf Hitler, le chancelier de l'époque, les pleins pouvoirs qu'il a ensuite, bien évidemment, utilisés et qu'il n'a jamais rendus. Je rappelle également que pendant 6 mois, les pleins pouvoirs avaient été donnés au général de Gaulle en 1957 par le gouvernement Plimelin, qu'il a repris avec effectivement son projet de constitution de 58, et qui était porté par Michel Debré. Il les a rendus et c'était la naissance de la Ve République, dont certains d'ailleurs ont écrit que c'était un coup d'État permanent, notamment François Mitterrand. Très heureux que vous disiez ça. Vous savez quoi ? Parce que vous êtes en train de rétablir un équilibre historique et de dire aux Français qui nous écoutent, à toutes celles qui nous écoutent, attention, l'histoire nous a indiqué clairement le chemin. Je suis 100% d'accord avec ce que vous dites. Vous imaginez la charge que ça représente dans ce que vous dites, de l'importance que ça a. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous entend lorsque vous le répétez, vous le ressaisez, vous le dites ?
Non. Alors, les citoyens, probablement, à Vichy, je l'espère. Encore plus parce
et
que évidemment,
vos collègues.
Non, et quand j'entends les déclarations du ministre, pas plus de l'Éducation nationale hier après-midi,
intéressant,
à l'Assemblée nationale, interrogé par le député issu de la circonscription de Vichy, où on l'interroge en lui disant, le député a dit la même chose que moi, hein, grosso modo, avec ses mots, en rappelant que pourquoi beaucoup caricaturent, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais beaucoup caricaturent ma position en disant le maire ne veut plus qu'on dise régime de Vichy, etc. Ça a beaucoup tourné en ce moment sur les réseaux. En fait, mon sujet, il n'est pas du tout là. Ce n'est pas pour défendre la ville. La ville, elle, en ce moment, elle est dynamique, elle prospère.
Bien sûr,
on
n'a
pas besoin de ça.
Bien sûr.
Mon sujet, il est purement historique et devoir de mémoire de dire, à force de dire régime de Vichy, on dit c'était Vichy, c'était pas la France. Donc on ne cible plus la fragilité de nos institutions. À force de dire régime de Vichy, on oublie justement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est passé de la République à l'État français, avec poussé par toute l'extrême droite, par Maurras, etc., qui
absolument.
Est appelé la République la gueuse.
Ouais,
donc il fallait
les
enlever...
dignes héritiers de l'ordre humain.
Exactement. Et donc il fallait enlever le mot République parce que c'était de là où, soi-disant, tous les mots de la société
les
venaient.
Les Doriot, les Marcel Déa, les Drieux-Larochelle.
Et le fait de ne plus utiliser le terme État français, de ne plus l'enseigner, ou comme le ministre de l'Éducation nationale dit hier, ça c'est pas important parce que régime de Vichy, les historiens disent régime de Vichy, on n'a qu'à dire aux enfants régime de Vichy. C'est pas le débat. Le débat, c'est que si on leur apprend pas les bons termes, on leur apprend pas la fragilité de nos institutions, on leur apprend pas que ce qui paraît une évidence aujourd'hui, la République, il y a des cycles, et évidemment que la République sera de nouveau attaquée comme elle a été attaquée dans ses valeurs, etc., etc. Donc non, je pense
que
cette notion de la fragilité de nos institutions...
Ce que vous dites, Frédéric, c'est que nous ne sommes pas à l'abri.
Non, nous sommes
d'un changement de régime du jour au lendemain.
Mais bien sûr.
Et que la démocratie, c'est comme le lait sur le feu, ça se surveille.
Aucune démocratie
n'est installée indéfiniment.
Aucune. Et le meilleur exemple sous nos yeux quotidiennement, c'est les États-Unis. Qui aurait pu penser il y a 10 ans de ça, ce qui se passe aux États-Unis, où il s'assoit sur tous les contre-pouvoirs, où il a déjà changé toutes les têtes dans l'armée, etc. C'est hallucinant. Ce pays qu'on considérait en disant, c'est le plus propre,
Mais surtout qu'il avait une revanche à prendre.
Exactement, il suffisait qu'un président fasse la moindre bêtise pour qu'il ait tous les tribunaux, etc. Lui, il est accusé de viol. On apprend aujourd'hui qu'il a fait prospérer ses affaires économiques grâce à l'État. Enfin, c'est un truc démentiel. Ça passe. Donc ça montre bien qu'en fait, même avec les régimes et même avec les institutions qu'on considère comme les plus protectrices, en fait, on est protégé de rien.
C'est ce qui devient fou. Et c'est un vrai plaisir toujours de vous écouter. Frédéric Aguilera, je rappelle que vous êtes le maire de Vichy. Voilà, une ville qui se transforme, une ville ancrée dans la tradition, mais tournée résolument vers la modernité. On va se quitter, puisqu'on est quasiment arrivé à la fin de cette première journée ici au Congrès Ville de France. À Roanne, on va se retrouver dès demain matin pour parler, échanger avec les maires de villes où il fait bon vivre. Je vous donne rendez-vous demain dès 9h ici à Roanne. Bonne soirée à vous et on se revoit demain matin sur Radio Immo.